France Musique. Musique et moi.
Sébastien Balibar.
Priscille Lafitte, France Musique.
C'est un vrai concerto, qui commence donc comme souvent par un allegro. Évidemment, je ne me sens pas franchement allègre, surtout plutôt tétanisé. Mes doigts sont toujours raides, je le sens, et mes poignets sont lourds, comme mes épaules, comme mon dos qui recommence déjà à me faire souffrir. Même mes poumons de cycliste sont bloqués, je suis déjà essoufflé. Enfin, peu importe, il faut y aller maintenant. Je n'ai pas le choix. J'inspire à fond, je souffle, je me calme, je fais le vide dans ma tête. Les lumières se sont éteintes et je ne vois plus personne dans la salle. Je ne vois que vous quatre à mes côtés, vos instruments en main, déjà concentrés et souriants. Vous m'aidez beaucoup, vous vous en rendez compte? Le silence s'est fait dans la salle. Il me reste quelques secondes à peine. Nous nous sommes à peine regardés, nos respirations se sont synchronisées. J'ai senti que c'était le moment et tous les cinq, d'un seul élan, nous avons lancé le tutti initial. J'ai toujours trouvé ce premier mouvement dramatique. Il commence par un unisson théâtral, avec du rythme, des contretemps, des sauts. Il faut donc y aller franchement. J'avais proposé le tempo de Glenn Gould, celui de son concert de 1957. C'était à Leningrad, un de ses premiers concerts à l'étranger. Pour je ne sais quelle raison, ce jour-là, Gould était parti un peu plus lentement que d'habitude. L'influence de Ladislav Slovak au pupitre de l'orchestre symphonique du conservatoire de Leningrad, ou simplement son désir à lui de bien contrôler la situation, lui qui n'aimait pas non plus jouer en public. Pour qui jouait-il, lui, à propos? Pour lui-même, sans doute? Attention, ce n'est pas le moment de penser, même à Gould.
Thank you. Premier mouvement, Allegro, du concerto en ré mineur BWV 1052 de Jean-Sébastien Bach, dans une interprétation de Maria João Pires. Votre interprète fétiche dans cette œuvre, Sébastien Balibar, bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour, merci de m'inviter.
Le texte que vous nous avez lu est issu de votre dernier livre, L'enfant et le concerto, qui est publié chez Odile Jacob, livre dans lequel le concerto en ré mineur sert de fil directeur. Vous en connaissez chaque note, chaque inflexion?
Je l'ai beaucoup joué moi-même au sol. Bon. Mais effectivement, j'ai une passion particulière pour ce concerto-là. D'abord, je suis impressionné par le fait que c'est le grand premier concerto de cette sorte pour les 300 ans qui ont suivi. Il y a d'autres concertos par Vivaldi, etc. Mais ils n'ont pas cette richesse de construction que cette version-là a.
Vous écrivez dans ce livre le monologue intérieur d'un pianiste amateur sur le point de jouer ce concerto. On vous reconnaît entre les lignes, Sébastien Balibar. On lit les hésitations sur le tempo. Il est donc accompagné d'un quatuor à cordes. Quel tempo d'ailleurs prend
Je crois que c'est 108 à la noire. Ça veut dire qu'on joue 108 noirs par minute.
Et ça vous convient comme tempo?
Ben pour moi, ça m'obligerait à un effort. Et je voudrais, quand je joue ce concerto, être plus détendu. Et donc, je le prends un peu plus lent. Et il se trouve que le tempo qu'a choisi Glenn Gould en 1957, quelque chose comme ça, à Leningrad, est plus proche de ce que j'ai fait moi-même. Ça ne veut pas dire du tout que je joue aussi bien que Glenn Gould, hein, mais je ne suis pas le seul à aimer la version lente. Voilà, un petit peu plus que ce qu'elle a fait sur son disque.
Mais à l'écoute, c'est un tempo qui vous convient, celui de Maria
Joao Pires? Oui, oui, même si je note parfois que faut pas se dépêcher, c'est pas la peine. J'aime beaucoup parce que vous avez dû remarquer comme moi la finesse des modulations d'intensité. Bon. Elle a des pianissimo qu'on entend juste comme ça du bout de l'oreille et un peu plus de vigueur dans des moments qui sont plus fortes, comme on dit. Bon. Et donc, c'est admirable de sa part. Mais j'ai préféré, parce que ce livre, il a comme principal personnage un pianiste amateur qui est terrassé par la crainte de ne pas faire ce qu'il faut. Et ce pianiste parle à la première personne. C'est je. Bon. Et ben, c'est pas forcément moi. Mais ça peut l'être. Donc, je vous laisse juger. D'autant plus que dans ce livre, il y a une deuxième histoire qui est entrecroisée avec la première. Et là, cette fois-là, c'est un petit garçon qui entend son père jouer admirablement du piano et qui rêve de jouer aussi bien que son père. Surtout quand il est tout petit. Et donc, bon, c'est compliqué. Et puis, ça se termine d'une façon que je ne vous dirai pas tout à fait maintenant. Vous n'avez qu'à le lire.
Divulgâché, comme on dit. Mais en vous entendant parler de modulation d'intensité à propos de musique, on comprend bien votre formation de physicien. Vous êtes membre de l'Académie des sciences, Sébastien Balibar. Vous travaillez dans un laboratoire, vous avez longuement travaillé dans un laboratoire à l'École normale supérieure en tant que directeur de recherche au CNRS. Vous êtes lauréat de prix internationaux pour vos recherches. Vous avez pratiqué ce qu'on appelle des sciences expérimentales dans la physique, oui. Dans votre atelier de bricolage, comme vous aimez l'appeler.
Oui, c'est-à-dire que j'aime pas beaucoup me prendre trop au sérieux et donc je fais exprès de provoquer un peu en disant que moi je fais de la menuiserie. Et c'est pas la même chose de tenir un tournevis et de calculer des équations. Donc moi, je préférais, comme ça, jouer avec une partie manuelle, quoi. Et j'y ai plutôt réussi. Et j'ai même attiré pas mal d'étudiants qui aimaient ça aussi, quoi. Ouais.
Alors, comment concilier les bidons d'azote liquide et la musique? Y a-t-il un quelconque lien entre le déchiffrage d'une mesure de cristaux, leur supersolidité ou leur superfluidité à des températures extrêmement basses, et le déchiffrage d'une partition? Bach était-il physicien avec son clavier bien tempéré? On va se poser ce type de questions ce matin avec vous, Sébastien Balibar. Dans votre laboratoire musical, on trouve le Chopin de Grégory Sokolov, une création de Philippe Manoury, la voix de Montserrat Caballé, et deux figures tutélaires nommées Scarlatti, Domenico, l'auteur des fameuses 555 sonates, et son père, Alessandro Scarlatti.
Cielo è più dei marmi, fredde e sorda.
On vient d'entendre d'Alessandro Scarlatti, un air d'opéra chanté par Cecilia Bartoli, accompagné par Gheorghe Fischer, puis une sonate de Domenico Scarlatti, Scarlatti fils, donc la Kirkpatrick 33 sous les doigts de Vladimir Horowitz. Est-ce que vous amusez souvent, Sébastien Balibar, à mettre côte à côte les œuvres du père et du fils?
S'amuser, je ne crois pas que ce soit le meilleur mot, mais écouter ce qu'a composé un père et ce qu'a composé son fils, je trouve ça très intéressant. Au moins, on peut voir que la virtuosité du fils, qui a quand même beaucoup de technique, elle n'a pas été démolie par une quelconque éducation. D'ailleurs, le père Scarlatti avait forcé son fils à composer une sorte d'opéra à 19 ans, et il l'avait fait, il obéissait. Et donc, si j'ai eu envie qu'on écoute l'un après l'autre, c'est parce que dans mon livre, j'y reviens, il y a l'histoire d'un enfant et de son père. Et c'est pas simple. Et là aussi, et dans des genres, encore une fois, extrêmement différents, qui m'intéressent l'un et l'autre. Alors, selon mon humeur et selon mon niveau de technique, en retour des vacances, je ne sais pas, je choisis plutôt l'un et l'autre. Mais je crois que c'est bien de jouer les deux. C'est très différent, mais faut le faire.
La transmission de la musique est effectivement au cœur de votre ouvrage. Vous êtes-vous déjà interrogé sur la façon dont on apprenait, on transmettait la musique en fonction des époques?
Oui, bien sûr. En particulier, entre les pères et les enfants, je crois qu'on va écouter maintenant un Bach un peu différent, parce qu'il y a deux solistes dans un concerto pour deux violons et orchestre. Le père Oistrakh et le fils Oistrakh. C'est intéressant. Ouais. Et puis, il y en a d'autres dont je me suis demandé s'ils avaient appris la musique avec leur père ou pas.
Ou avec leur mère.
Ou avec leur mère, mais bien sûr.
Cecilia Bartoli, c'est sa mère qui lui enseigne le chant.
Bien sûr, évidemment. Et puis Jacqueline Dupré a pris le violoncelle grâce à sa maman, bien sûr. Et puis il y en a d'autres. Et finalement, c'est très difficile de sortir une loi un peu générale. Il n'y a que des cas particuliers.
Vous, dans votre cas particulier à vous, Sébastien Balibar, c'est votre père qui vous a transmis cet amour?
Alors écoutez, lisez mon livre. Parce que je ne veux pas déflorer ça. Vous verrez que c'est très contradictoire, c'est compliqué. Je dois beaucoup à mon père, mais en même temps, il m'a beaucoup détruit. Donc c'est un mélange compliqué. Et d'ailleurs, pour tout vous avouer, l'écriture de ce livre m'a été intéressant, si ce n'est utile.
De ce point de vue-là, et votre mère était musicienne?
Oui, alors je parle beaucoup de ma mère. Elle était littéraire alors que mon père était
linguiste.
Mathématicien. Mmh. Linguiste, oui, avec des livres tout à fait remarquables. Et elle avait beaucoup de goût en matière de musique. Bon, mais elle préférait écouter son mari et progressivement son dernier fils, c'est-à-dire moi-même. À propos, vous voyez, je parle vraiment de moi là, mais c'est sûr que ma vie tout au long des âges, si on peut dire, a été très importante pour écrire tout ce livre. Mais tout n'est pas moi, pas du tout. Non, non. Il y a des échappements vers autre chose que j'ai inventé, mais il y a beaucoup de moi-même. Oui.
c'est Oistrakh père et fils, David et Igor, dans le deuxième mouvement du concerto pour deux violons, BW 1043 de Jean-Sébastien Bach. Qu'entendez-vous dans le dialogue de ces deux archets? Est-il possible pour deux générations comme ça de s'entendre, de s'écouter à ce point?
Il faut croire que c'est possible parce que cette réussite, à mon avis, est extraordinaire. Je veux dire par là que je suis incapable de distinguer le père du fils quand je les écoute. C'est un concerto scula avec deux instruments qui se parlent, qui se répondent, etc. Bon. Alors, David Oistrakh est infiniment plus célèbre que Igor Oistrakh, son fils, qui d'ailleurs lui-même avait aussi un fils qui était violoniste. Mais ce que je trouve vraiment spectaculaire ou extraordinaire, c'est que je suis donc incapable d'entendre qui est le père et qui est le fils quand j'écoute la musique. Alors je me suis beaucoup demandé pourquoi. Il y avait deux solutions. Ou bien le fils était aussi remarquable que le père. Un aussi bon violoniste, c'est possible. Mais je crois ça difficilement. En revanche, ce qui est possible, c'est que David, le père, était tellement habile dans son jeu qu'il ajustait son propre jeu du violon pour lui avoir le même son que celui de son fils. C'était peut-être un peu moins bien, mais c'était ça l'esprit du concerto. Il fallait que les deux violons se répondent parfaitement. Alors ça, c'est l'exemple d'une entente entre un père et un fils que j'aurais aimé comprendre plus en profondeur, mais personne n'a fait de la psychologie de Monsieur David Oistrakh. Alors bon, c'est une question ouverte.
Dans votre enfance, Sébastien Balibar, vous avez pratiqué le piano à quatre mains avec votre père.
Ah, alors ça, mon apprentissage du piano, c'est toute une histoire.
Racontez-nous comment ça passait.
Pour une raison que je n'ai toujours pas compris, et puis malheureusement, mon père est mort il y a déjà 20 ans, donc c'est trop tard pour lui demander. Et puis, je n'ai pas trop réfléchi, je n'ai pas vraiment compris ça à l'époque, quoi. Mais quand j'étais tout petit, parce que pour être un bon musicien, il faut commencer à 3 ans, franchement, oui, ou environ 3 ans, bon. Et donc, tout petit, eh bien, il a essayé de, pendant l'espace d'une après-midi et encore, de m'apprendre lui-même la musique. Ça a été catastrophique. Je n'ai pas supporté du tout la façon dont il me parlait. Et donc, il n'est pas question que je prenne des leçons de piano. J'admirais tellement le piano de cette manière avec mon propre père. Bon. Donc, il ne s'est rien passé, etc. Ensuite, vous verrez l'extraordinaire professeur de piano à qui j'ai été apporté, amené. C'est plutôt, il vaut mieux en rire, mais c'était une catastrophe. Donc, je n'ai appris le piano que quand je suis allé au conservatoire de ma petite ville, beaucoup plus tard. Et donc, après, j'ai mis longtemps à convaincre mon père de me mettre enfin au conservatoire, qui est l'endroit où, à mon avis, pas toujours, hein, il y a de mauvais professeurs, évidemment, mais où on apprend quand même sérieusement à faire, à devenir aussi bon que possible. Mais pour moi, c'était un peu tard. J'ai beaucoup réussi à faire des progrès, et effectivement, de fait de faire énormément de musique de chambre avec beaucoup de gens, dont des scientifiques. Bon. Et donc, c'était quand même pas du tout raté, si je peux employer ce mot. Et donc, au bout d'un certain temps, mon père s'est rendu compte que ce serait possible de jouer ensemble, pas qu'il me donne des leçons, qu'on joue ensemble.
Ça changeait les choses.
Bien sûr.
D'être côte à côte, d'être sur un plan d'égalité.
Oui, c'était très difficile. J'ai été obligé de m'adapter à ses méthodes. J'en ai souffert. Mais ça nous a rapprochés. Et donc, moi et mon père, nous sommes devenus très très proches parce que nous avions du plaisir à jouer ensemble. Alors maintenant, le quatre mains, c'est un genre un peu spécial. Hein. C'est pas ce que je préfère dans l'art de la musique. Mais c'est un peu ce qui m'est arrivé et je le raconte en partie dans ce livre.
Quoi. C'est ce qui permet d'élaborer une musicalité ensemble, de tirer des fils musicaux.
Oui et non, parce qu'on fait que du déchiffrage à quatre mains. On n'a pas fait vraiment de travaux. Bon. Et donc, on n'avait pas vraiment le temps de mettre au point un style et une interprétation bien travaillée. Vous voyez, donc, c'est pas du tout la même chose que ce que j'ai fait plus tard en jouant de la musique de chambre, en particulier en trio, en quintette, et ou en accompagnant des chanteurs ou des chanteuses, où là j'ai vraiment travaillé et on a pu chercher une manière de se rapprocher, d'être ensemble, de jouer, chanter ensemble, quoi.
Grigory Sokolov.
Grigory Sokolov, c'est quelqu'un de très particulier. Oui. Il joue comme personne d'autre. Il invente des façons d'interpréter ceci, cela qui sont à lui. On vient d'entendre l'avant-dernière des études de Chopin, qui est particulièrement virtuose. Et j'ai voulu, évidemment... Mais je vais arrêter de vous parler de mon père, je vous promets.
Bon.
Mais j'ai eu envie de montrer ça parce que quand j'étais petit, je couchais dans la chambre à côté du piano, quoi. Et donc, j'écoutais évidemment. Bon. Et puis parfois, mon père commençait, comme vous l'avez entendu, très doucement, très calme. Bon, donc j'écoutais ça. Et puis d'un seul coup, on était, chahuté ou déchiré ou par ce spectacle de technique, quoi, comme il y en a dans, pas toutes, hein, mais comme il y en a dans beaucoup des études de Chopin. Donc, j'étais terrassé, oui. Et je dois vous dire que j'ai eu beau travailler mon piano pendant des années. Je n'ai jamais été capable de jouer ça comme ça.
Mais vous avez travaillé, avec acharnement, avec méthode ou en dilettante? Quel était votre rapport à vous?
Oh, c'est très contradictoire. J'ai travaillé très sérieusement quand j'étais au conservatoire, mais ça n'a pas duré très longtemps parce qu'après, j'ai passé mon baccalauréat, j'ai tout de suite été dans les concours d'entrée aux grandes écoles, etc. Bon, mais j'ai jamais vraiment arrêté. La seule fois où j'ai pris des leçons de piano, c'était d'ailleurs très remarquable, c'est à une époque où j'accompagnais une chanteuse, qui d'ailleurs donnait des concerts, c'était quelqu'un de très sérieux, il s'appelle Nicole, mais je ne vais pas vous dire davantage. Bon. Et donc on a pris des leçons avec son professeur. Son professeur, en fait, c'est un pianiste, mais qui s'intéresse beaucoup à l'accompagnement des chanteuses. Ce qui est tout un travail considérable, en particulier dans Schumann. Et quand on a commencé à jouer les leaders de Schumann ensemble avec Nicole, elle a eu envie qu'on aille prendre quelques leçons avec ce pianiste. Et on l'a fait. Et j'ai même entendu de temps en temps qu'il... Bon, je ne devrais pas dire ça. Il a dit à cette chanteuse, ne le perds pas, ne le perds pas. L'air de dire que j'avais un certain talent pour écouter son chant, elle, en tout cas. Bon.
Et les études, les travaux en physique, oui, demandent la même démarche de prendre parfois du recul sur ce qu'on est en train d'élaborer. Est-ce qu'on cherche un sens dans une succession de chiffres?
Écoutez, il y a plusieurs façons de faire de la recherche scientifique. On peut réfléchir à des relations très compliquées. Bon. Et puis, il y a des moments où on dit, mais ce que j'ai observé, c'est surtout les expérimentateurs comme moi. Ils font des expériences. Moi, je regardais pendant certaines périodes. J'ai mis 14 ans à comprendre la forme des cristaux que je voyais à travers une fenêtre. Je comprenais pas, mais pourquoi c'était comme ça? Bon. Et puis, dans la brume de mon esprit, à la fin de la nuit, je me disais, ah, mais oui, mais bien sûr, c'est comme ça, Eureka, comme on dit dans l'histoire. Hein. Et donc, il y a quelque chose de la rêverie, il n'y a pas que du rationnel organisé dans la recherche scientifique, ou du moins dans une certaine recherche qui est celle que j'ai faite pendant assez longtemps. Hein. Bon. Et qui m'a plutôt rendu des services parce que, à force de rêver, j'ai inventé des choses auxquelles les gens n'avaient pas pensé, quoi. Bon, et ça m'a permis d'avoir des résultats assez spectaculaires d'un point de vue théorique ou et d'être tranquille alors que les autres ils essayaient tous de faire la course sur un sujet connu, quoi. Bon. Donc j'ai eu cette chance de travailler de cette manière, c'est-à-dire que c'est rationnel, mais il y a de la rêverie dedans. C'est pas facile à faire croire, hein, même à vous. Thank you.
Arthur Rubinstein et le quatuor Guarneri dans le deuxième mouvement du quintet en mi bémol majeur de Robert Schumann.
France Musique.
Priscille Lafitte, Musique et moi.
Le physicien Sébastien Balibar est l'invité de Musique et moi ce matin. Vous avez pratiqué le piano tout en étant à la tête de votre laboratoire de recherche. Vous avez même interprété, joué ce quintet de Schumann.
Oui, si je peux me permettre, je crois que l'un des avantages de la science ou du milieu scientifique, c'est qu'il y a pas mal de gens, jeunes ou vieux, qui sont de très bons musiciens. Bon. Et donc, j'ai trouvé dans mon laboratoire et dans quelques autres d'ailleurs, des gens avec qui parler, au point d'être capable de construire un quatuor à cordes et de me l'associer afin de jouer cette merveille de quintet que Robert Schumann a écrit pour sa femme, Clara.
C'est étonnant qu'il y ait autant de musiciens dans le milieu scientifique. Que voyez-vous en commun?
Je suis pas sûr s'il doit y en avoir plus que dans certains autres milieux. Oui, c'est vraisemblable. Il y a aussi que peut-être que en science, il faut faire attention à ce qu'on fait. Il faut être très précautionneux pour comprendre et établir des connaissances qui soient solides. Maintenant, il y a quelques pourcents de musiciens dans les chercheurs, c'est tout.
Mais oui. La pratique instrumentale, ensemble, permet aussi de faire émerger peut-être des connexions, des connivences.
Ça,
autrement,
c'est sûr.
Oui, vous avez pu ensuite reparler de vos,
oui.
C'est très, de vos recherches c'est, ensemble.
Ce que j'ai souvent remarqué, c'est que quand on joue ensemble, mettons à 5, mais c'est encore plus clair quand on est 2, quand j'accompagne une chanteuse par exemple, ou quand on joue des sonates ou même des trios avec un violoncelle, un violon et mon piano, on parle à travers les notes, quoi. Vous voyez ce que j'essaye de dire? Et donc la musique, c'est aussi une sorte de discours en fait. Et c'est très important. Quand on joue une phrase musicale, elle signifie quelque chose. Et quand on accompagne une chanteuse, alors là, il n'y a aucun doute que ce qu'on fait pour elle est une déclaration qui peut être une déclaration de rage, mais qui est plus souvent, je dirais pas une déclaration d'amour, mais il y a quelque chose de sentimental quand on joue ensemble.
Bon. Mais pensez-vous à vos recherches? Êtes-vous en train d'élaborer des équations lorsque vous jouez une partition de piano ou vous séparez vraiment les deux champs cognitifs?
Une fois de plus, vous me posez une question qui est vraiment bien. Je crois que pour inventer quelque chose, c'est-à-dire pour découvrir un phénomène, ce qui a été mon cas pendant 50 ans, peut-être, je sais pas, bon, j'ai pas compté. il faut être de bonne humeur, quoi. Et donc, il n'y a rien de tel que d'être amoureux pour avoir des idées scientifiques. Ça peut paraître incroyable, mais c'est vrai.
Thank you. Nous entendons l'ouverture d'un opéra signé Philippe Manoury, Kein Licht. C'est une captation au Festival Musica de Strasbourg en 2017 par France Musique. Kein Licht est un Thinkspiel, non pas un Singspiel, c'est un opéra pour penser à quoi, Sébastien Balibar, vous qui avez vu cet opéra, l'opéra comique, je crois.
Question très difficile. Il y a une question encore plus difficile sur laquelle je vais sauter pour me dégager, qui est quel rapport avec ma science ? Parce que ce qui m'est arrivé un jour, c'est que Philippe Manoury, qui est un ami d'un ami à moi, qui s'appelle Christian Labrande et qui a fait beaucoup de merveilles à l'Auditorium du Louvre, bref, Philippe Manoury voulait me voir pour que son chœur, son orchestre, tout ça, me rencontre en tant que scientifique, parce que le sujet de son opéra, qui s'appelle Kein Licht, pas de lumière, ça parle de l'accident de Fukushima. Texte que Elfriede Jelinek, qui est un écrivain, prix Nobel de littérature, etc., très violente dans ses interventions, avait écrit à toute vitesse, disons, pour que Philippe Manoury en fasse un opéra donc sur ce drame terrible qu'est l'accident de Fukushima. Et alors, il avait l'envie de faire rencontrer à tout son personnel, chanteur, orchestre, tout un tas d'électroniques de toutes sortes, un physicien qui leur raconte un peu de quoi il s'agissait, ce qui s'était passé. J'ai dit, écoutez, moi je peux essayer de vous raconter. Alors, il me posait tellement de questions, ça se passait tout en haut de l'opéra comique, là, dans les combles. Il y avait 30 personnes autour de moi, un arc-en-ciel, et moi j'étais au milieu, tout seul, à raconter ma physique, expliquer Fukushima, ce qui est compliqué. Et donc, au bout d'une heure, je leur ai dit, peut-être que vous en avez assez, ça fait une heure, et à force de répondre à vos questions, je peux pas tout expliquer. Ils m'ont dit, non, on continue. On a parlé 3 heures. Pendant 3 heures, j'ai expliqué que Fukushima, c'était le résultat d'une erreur, que ça n'avait rien à voir avec Tchernobyl, et qu'en France, ça me paraissait impossible. Mais il fallait que je me fasse croire, c'était pas du tout évident. Au bout de 3 heures, on s'est dit au revoir avec amitié, Et puis, je suis allé à la première à l'opéra, Et ma surprise, quand à l'entracte, il me semble qu'il y avait une entracte, ou alors avant ou pendant les applaudissements, je ne me rappelle plus très bien, Philippe Manoury est venu devant le grand rideau pour me remercier personnellement, nominément. Parce que je leur avais expliqué ce qui se passait dans le nucléaire de Fukushima. J'étais sidéré et je suis du coup très ami avec Philippe Manoury et je le rencontre toujours avec grand plaisir. Voilà.
Est-ce que ce que vous leur avez dit avait un intérêt artistique aussi ? Ils en ont tiré quelque chose pour cette œuvre ?
Quelle question difficile. Je pense que pour Madame Jelinek, ça avait un intérêt et un rapport avec l'écriture. L'écriture d'un désastre, mais après tout, pourquoi pas ? Pendant tout le concert, de toute façon, je comprenais pas le texte de Jelinek, bien que je sache un peu l'allemand. Et donc, ça ne me gênait pas. Ce qui m'a fasciné, c'était que la musique était extraordinaire. D'ailleurs, vous venez d'en entendre une version. C'était une autre que j'ai entendue avec un flûtiste très remarquable, très amplifié, qui s'appelle Emmanuel Pahu.
Kein Licht, pas de lumière, c'est précisément ce que vous recherchez dans votre laboratoire.
Ah, vous me taquinez là. Non, mais dans mon laboratoire, si on cherche absolument à avoir des résultats positifs ou brillants, etc., il y a des gens comme ça qui veulent absolument avoir le prix Nobel et puis qui l'ont pas. J'ai essayé de comprendre des choses parfois compliquées, mais qui m'intéressaient, mais pas forcément pour devenir célèbre. Mais j'ai eu du succès quand même.
Thank you.
Sébastien Balibar, vous avez eu l'occasion d'entendre la voix de Montserrat Caballé?
Ah non, malheureusement, non. Mais cette voix-là, je trouve ça suprême, quoi. Enfin, en particulier parce qu'il y a, à mon avis, il y a des chanteurs qui se laissent aller à un peu trop de vibrato. Et ça, j'aime pas ça. J'ai réussi à entendre, je pensais qu'on pouvait parler, mais on n'a pas le temps, Philippe Jarouski en contre-ténor dans le Stabat Mater de Pergolèse. C'est merveilleux.
Oui, mais on a le temps d'entendre ensemble le Stabat Mater de Pergolèse.
Eh bien, allons-y, parce que faites bien attention à la voix intermédiaire, pas la voix la plus aiguë d'une merveilleuse soprano qui s'appelle Julia Lejneva, mais Philippe Jarouski, qui est un musicien contre-ténor fabuleux. Thank you.
Le Stabat Mater de Pergolèse. On entend les voix de Philippe Jaroussky et de Julia Lechneva dont vous nous parliez un tout petit peu plus tôt. Est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer un peu davantage, Sébastien Balibar, l'objet de vos recherches? Vous avez opéré des expériences, si j'ai bien compris, dans votre livre « Chercheurs au quotidien » aux éditions du Seuil. Vous avez cherché à obtenir une obscurité totale dans ce laboratoire, kein Licht, comme aurait dit l'opéra de Philippe Manoury. Pour quelle raison est-ce que...
Ah, eh bien, principalement parce que c'est des expériences qui exigent un froid terrible, enfin maximal. On descend, bon, je vous dis quand même un mot, la température s'arrête à 0 degré absolu, qu'on appelle le zéro absolu, et qui est à moins 273,15 degrés. Bon. Et nous, on travaille à moins 273,14. Donc vous vous rendez compte que c'est extrêmement délicat d'être à des températures pareilles. Alors, quand ils reçoivent de la lumière ou des ondes, eh bien ça réchauffe. C'est comme votre thermomètre sur le balcon. S'il est au soleil, eh ben il chauffe, quoi. Bon.
Alors même des ondes de radio
peuvent induire
des changements de chaleur.
Oui, toutes les ondes, la lumière, mais aussi des ondes radio. Donc, il faut filtrer.
De façon infime, j'imagine.
Comment ?
De façon infime. C'est...
Oui, c'est infime, oui. Pour ça, on met des filtres qui filtrent les ondes radio et qui laissent passer au moins une couleur, quoi, qu'on puisse voir à l'intérieur quand même. Vous voyez ? Donc ça, c'est délicat et c'est un peu ce qui m'a permis de faire des choses un peu originales. Moi, je crois que mes concurrents, ils devraient faire comme moi. C'est pas si difficile que ça. Bon.
Donc, vous n'écoutiez plus France Musique à l'intérieur de votre laboratoire pour cette raison?
Ah, mais j'aime pas écouter trop de choses en même temps, que je réfléchis. Non, je mets pas France Musique quand j'écris. Non. Donc, je mets France Musique quand je n'écoute que France Musique.
Vous avez besoin des temps de concentration séparés.
En particulier le dimanche où il y a beaucoup de gens comme vous et comme Corinne Schneider. Non.
Thank you.
piano de Nelson Gurner dans une des estampes de Claude Debussy, Jardin sous la pluie. Vous souhaitez nous faire entendre ce pianiste Sébastien Balibar qui fait partie de votre panthéon d'instrumentistes, de claviéristes.
Vous avez deviné, oui. Nelson, je voulais écouter quand même des pianistes relativement jeunes aujourd'hui. Et parmi ceux-là, Nelson Gurner, vous avez entendu Jardin sous la pluie. C'est extraordinaire de clarté, de précision. Moi, je trouve que c'est splendide, quoi. Nelson Gurner, vraiment. Il y en a d'autres que j'aime d'or. Bon, Adam Laloum, par exemple, qui est encore plus jeune. Et puis, il y en a encore d'autres, d'ailleurs.
Et une certaine Martha Argerich aussi, mais qui, elle, est
oui,
la
Martha
génération.
Oui, Martha, j'ai beaucoup d'admiration pour elle.
Et vous nous avez apporté une dernière lecture, Sébastien Balibar, pour oui. clore cette émission et pour essayer, ce que nous avons tenté de faire à certains moments de cette émission, tisser des liens entre les arts et les sciences. Oui. Et c'est ce que fait Victor Hugo, du moins dans oui. ses écrits.
Oui, j'ai été surpris quand j'ai découvert ce paragraphe de Victor Hugo, que je suis content de vous lire si vous le voulez. C'est extrait du William Shakespeare. Victor Hugo compare donc la science et l'art. Et il écrit « La science est l'asymptote de la vérité. Elle approche sans cesse et ne touche jamais. » Du reste, toutes les grandeurs, elle les a. Elle a la volonté, la précision, l'enthousiasme, l'attention profonde, la pénétration, la finesse, la force, la patience d'enchaînement, le guet permanent du phénomène, l'ardeur du progrès et jusqu'à des accents de bravoure. Quel hommage!
Comme toute dernière musique, Sébastien Balibar, vous oui. nous proposez Césaria Evora.
Eh bien, j'aime infiniment cette petite chanson. Ça s'appelle Petit Pays et c'est à propos du Cap-Vert. Elle était surnommée la diva aux pieds nus, Césaria Evora. Elle est décédée malheureusement, mais ce serait gentil de penser à elle, que j'aime beaucoup.
Nasceu, põe uma estrela que cata brilhar. Linda mar, põe uma areia que cata molhar. Espanhol desse mundo fora, só rote mar. Terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra, sabe, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só rote mar. Terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra, povo, cheio de amor. Tem batuque, tem funaná. Oi, tanto saudade. Saudade, saudade. Oi, tanto saudade. Saudade sem fim. Oi, tanto saudade. Saudade, saudade. Oi, tanto saudade. Saudade sem fim. Nasceu, moeu uma estrela que cata brilhar. E na mar, moeu uma areia que cata moiar. Espanhol nesse mundo fora, só rote mar. Terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra, sabe, cheio de amor. Tem batuque, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só rote mar. Terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra, povo, cheio de amor. Tem batuque, tem funaná. petit pays. Je t'aime beaucoup, petit, petit. Je l'aime beaucoup, petit pays. Je t'aime beaucoup, petit, petit. Je l'aime beaucoup.
Un grand merci Sébastien Balibar.
Merci à
vous. D'être venu dans les studios de France Musique. Je rappelle le titre de votre dernier livre, L'enfant et le concerto, aux éditions Odile Jacob. Merci à toute l'équipe aux manettes de cette émission. Éric Boisset à la technique, Marie Grou à la réalisation, attachée de production, Marie Ferdinand, Nelly Portal et Laure Poissonnier. Passez un très bon dimanche sur France Musique. Et à la semaine prochaine pour un nouveau Musique et moi, à 11h.
À réécouter sur francemusique.fr.